Popmine, les droits humains, une zone à défendre du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Un rendez-vous d'envergure européenne organisé par l'UFISC, collectif d'acteurs de la culture, sur des thématiques telles que les droits culturels, militance et résistance, territoire, relations au travail ou liberté individuelle et collective. Les radios normandes de découverte musicale, HDR, West Track, Radio Principe Actif, Radio 666, Radio Campus Rouen, Radio Lomax, Radio Phoenix et Radio Pulse, en partenariat avec la Ferrarock et Radio Campus France, s'emparent de l'événement pour faire entendre la voix des différents intervenants sur les sujets abordés lors de ces trois jours de rencontres et de débats. Pop Mind.
Bonjour Jean-Jean, Radio Principe Actif.
Bonjour Lou de Radio Campus.
Nous avons donc la joie d'accueillir Patricia Colère. Patricia Colère, donc vous êtes à l'UFISC. Alors qu'est-ce que c'est que l'UFISC ?
Alors l'UFISC, déjà il faut déployer l'acronyme, l'Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles. Et en fait tout simplement c'est un espace collectif, c'est une union de différents réseaux dans le champ artistique et culturel qui se sont regroupés pour travailler ensemble.
Et j'ai cru comprendre que vous étiez donc déléguée générale à l'UFISC, hein, c'est cela ?
Tout à fait, en effet je suis salariée permanente, on a une petite équipe qui permet justement d'organiser les chantiers et les travaux et des événements comme celui-ci.
Alors justement parlons de cet événement, les droits humains fondamentaux, une zone à défendre. On se retrouve donc deux jours et demi au 106 et au 108. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, tout à fait. En effet, pour nous, c'est un gros événement que nous préparons déjà depuis longtemps et puis surtout qu'on ne prépare pas tout seul, qu'on prépare avec un certain nombre de réseaux partenaires parce qu'il nous a semblé qu'il était aujourd'hui indispensable de mettre au cœur de notre réflexion cette question des droits fondamentaux qui nous semble beaucoup mise à mal dans un moment où on peut lire malheureusement un certain nombre de replis identitaires, mais aussi de logique de financiarisation, aussi de difficultés économiques ou de montée des inégalités. Et que dans le moment de mutation, en même temps où on est de transformation, on a besoin d'avoir quelque chose qui peut nous conduire en termes de vision politique. Et cette question des droits fondamentaux dans leur diversité de droits nous paraît tout à fait intéressante pour justement creuser ce sillon, ce travail.
Alors, pendant cette journée, pendant cet après-midi, on a eu, pendant la plénière, l'occasion de rencontrer beaucoup d'invités, et des invités très diversifiés. On avait des philosophes, des chercheurs, et on avait même une
économiste.
Une économiste, exactement, oui. J'avais perdu le mot. Quels ont été les grands axes, justement, structurés par ces invités tout au long de cette plénière ?
Alors en effet, on a parlé de beaucoup de choses parce que ce qu'on a voulu, c'est commencer avec quand même la réflexion sur l'enjeu culturel aujourd'hui et l'imaginaire culturel dans lequel on est. Lorsqu'on parle de la question des droits fondamentaux, il y en a un qui nous anime tout particulièrement à l'UFISC, puisqu'on est un réseau d'acteurs artistiques notamment, c'est celui de la question de l'expression aujourd'hui et de la représentation du monde, qui a été quelque chose d'un fil rouge comme ça sur toute cette plénière. Et en fait, qui nous parle aujourd'hui de la nécessité que l'on a de prendre toutes les personnes, moi, vous, tous ceux qui nous entourent, comme des contributeurs à cette représentation du monde, comme pouvant parler de leur imaginaire culturel, donc pouvant se réorganiser dans leur mode de vie culturel, comme pouvant être dans une expression du symbolique, etc. Et donc, on est parti de là. Et puis, petit à petit, forcément, lorsqu'on parle de la culture, on la décline à un ensemble d'autres sujets. L'économie, parce que l'économie c'est d'abord une organisation culturelle de nos modes de vie, et l'économie ici c'est pas la même que celle des territoires ruraux dont on parlait tout à l'heure, ou celle de la question en Europe, d'autres pays comme en Grèce ou en Italie qui ont aussi d'autres modes de vie. Voilà, donc le propos c'était de s'inscrire à la fois sur ces questions de l'économie, du social, des libertés, et de réfléchir tout ensemble à quand même une question de fond, et je crois qu'il nous anime beaucoup aujourd'hui, la question de la démocratie et de l'expression citoyenne.
Alors Patricia, comment ça va se dérouler très exactement ? Donc ces deux jours et demi, c'est sous forme d'ateliers, de plénières, comment vous pouvez nous en dire davantage ?
Alors on a essayé de répondre à différentes formes pour que chacun puisse y trouver aussi un petit peu son compte. Là on avait une plénière qui était quand même plutôt de l'ordre de la conférence, même si on a fait une discussion entre des universitaires, vous l'avez dit, philosophiques, philosophes, économistes, des juristes, également des réseaux d'acteurs militants sur la solidarité internationale ou l'économie solidaire. Par la suite, nous aurons également des plénières pour partager des expériences avec des invités européens. Ça nous a semblé vraiment important que justement on n'ait pas une discussion franco-française, mais qu'on puisse travailler avec d'autres. Et puis, on a également des ateliers sur des problématiques très spécifiques qui touchent au champ culturel, comme par exemple sur les questions de droit d'auteur ou les questions du travail, les conceptions du travail aujourd'hui, et également sur la question de la jeunesse dans les territoires ruraux par exemple, ou encore de l'égalité femmes-hommes, un point très important qui a été souligné d'ailleurs par plusieurs de nos intervenants. Et on aura également des palabres. Alors les palabres, c'est simplement échanger nos pratiques, témoigner de ce qu'on fait, et puis essayer de mieux se comprendre les uns les autres et de mieux inventer ensemble.
Je vais reprendre un peu sur la plénière d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé des droits fondamentaux vu que c'était le sujet d'aujourd'hui. Quel est le constat de vos invités aujourd'hui? On l'a noté, mais est-ce que vous pouvez la rappeler à nos auditeurs?
Il est de deux ordres, je dirais. Il est à la fois d'une mutation très importante et donc d'une mise à mal d'un certain nombre de ces droits fondamentaux par rapport à la déclaration de 48, où on a parfois l'impression, malheureusement, de revenir un petit peu en arrière sur ces questions de liberté et évidemment la question de la liberté des personnes et la manière dont on traite aujourd'hui les personnes exilées est revenue comme un exemple, une illustration malheureuse et vraiment terrible de la manière dont on considère les personnes aujourd'hui dans notre pays. Et puis, on a également mis l'accent sur justement les formes de marchandisation des relations humaines que l'on peut connaître aujourd'hui et qui touchent tous les secteurs, que ce soit le champ culturel, le champ du social, le champ de la santé, le champ de l'enseignement. Et il nous a semblé important justement de pouvoir mieux décrypter aujourd'hui les retours en arrière qu'on peut lire justement sur ces droits fondamentaux. Et en même temps, je pense que ça a été souligné par l'ensemble des intervenants, il y a également beaucoup de choses qui se passent déjà. Et généralement, c'est très justement des initiatives locales, associatives, des gens qui se mettent ensemble pour résister, mais aussi pour faire, pour justement prendre soin d'autres personnes, pour inventer des choses nouvelles, et qui nous permettent justement de s'auto-organiser quelque part pour dire qu'on a envie de conduire le monde un peu autrement. Et donc, à la fois dans nos pratiques, là, c'était les réseaux d'acteurs comme le réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou le CRID sur la solidarité internationale, qui disait à quel point, avec tous ces acteurs, ils essayaient de refonder d'un côté l'économie solidaire ou de refonder la question de la liberté de la circulation, par exemple. Ça s'inscrit aussi dans des logiques plus structurelles. Et c'est là que on va avoir ce travail, en effet, pendant 2 jours et demi, pour essayer aussi de mieux comprendre structurellement comment on peut avancer.
Jean-Jean, je vais peut-être te laisser poser la prochaine question. Par contre, je voudrais revenir sur une phrase qui a été citée par Luc Carton justement pendant cette plénière, qui nous disait justement sur ce que vous étiez en train de dire, que les droits humains fondamentaux, c'est une zone à défendre, certes, mais c'est une zone à habiter, et je trouve que ça illustre assez bien ce que vous venez de dire, en tout cas.
Tout à fait, je crois qu'il a été tout à fait pertinent de dire que c'est une zone à habiter, à renforcer, à forger même, et qu'on n'est pas du tout dans le désespoir, c'est pas du tout ça. Au contraire, on est dans la volonté, on est dans la mobilisation, et on a envie vraiment de porter justement les valeurs qui nous portent. Voilà, tout à fait.
Et moi, j'ai entendu un mot qui est revenu assez souvent durant ces 2 heures de plénière, c'est co-construction. Co-construction, on pourrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça?
Alors justement, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce jargon de la co-construction qui veut dire simplement construire avec. En fait, on veut sortir d'une forme un peu de construire pour et sortir des logiques d'expertise de gens qui sauraient mieux quelque part que nous comment construire nos modes de vie, et de se dire qu'on a un intérêt aujourd'hui à réfléchir comment on fait ensemble. Alors comment on co-construit entre nous, entre citoyens, dans des débats délibératifs, et Luc Carton a vraiment rappelé la nécessité d'avoir des espaces de débat où on discute, où on échange, où on délibère. Évidemment des co-constructions entre acteurs de différents secteurs, parce que même si on travaille sur des activités différentes, on a des lignes conductrices et on a des manières de faire ensemble, on a même des manières de coopérer sur des territoires. Et puis une co-construction évidemment avec les collectivités publiques, que ce soit au niveau local comme à Rouen ou dans la région, puisque Catherine Morin de Sailly l'a rappelé, mais également au niveau national, vous savez tous le moment dans lequel on est, et puis au niveau européen. Et là, c'est vrai qu'on a aussi bâti ce temps sur l'Europe, parce que on se rappelle que les élections européennes sont là bientôt, et que malheureusement, on manque d'un projet très constructif par rapport à l'Europe, justement, qui puisse être appuyé sur les droits humains.
Tout à fait, vous avez raison de le dire, on est véritablement dans une question, c'est une question démocratique, hein, de toute façon. Hein. Merci beaucoup, merci Patricia Colère. Je vous rappelle que vous êtes déléguée générale donc, à l'UFISC, hein, organisateur donc, de ces deux jours et demi au 106 et au 108, les droits humains fondamentaux, une zone à défendre. Ça, c'était le titre de la plénière, mais c'est aussi c'est la grande thématique de ces deux jours et demi.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à
merci.
Vous.
Pop Mind.
Bonjour Léna.
Bonjour Mathieu.
Alors nous sommes toujours à PopMind. PopMind, un temps de rassemblement et de partage pour l'ensemble des organisations touchant aux enjeux culturels et citoyens. Un ensemble de conférences. On a pu assister il y a quelques minutes à une conférence très très intéressante qui avait pour thème responsabilité citoyenne et militance des acteurs culturels. Avec comme introduction, comment les acteurs culturels s'emparent-ils de leur pouvoir d'agir au service de la progression sociale et des droits humains ? Très grande question. Des intervenants de qualité, nous en avons justement deux autour de la table en ce moment même. Et je vais vous laisser vous présenter. Tout d'abord, bonjour Albert Augier.
Oui, bonjour. Ben, je suis sociologue et puis directeur de recherche au CNRS. Et je m'occupe en gros des formes actuelles d'action politique mises en œuvre par des citoyens.
Et nous avons également l'honneur d'avoir John Jordan. Bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Je suis artiste activiste. Je vis à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis cofondateur du laboratoire de l'imagination insurrectionnelle et auteur d'un livre, film qui s'appelle Les Sentiers de l'Utopie.
Et il y avait également autour de la table Lucie Lambert, qui était présidente de la MJC de Rambouillet. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre première question. On va faire un petit retour historique. C'est vrai qu'ont été cités de nombreux exemples durant cette conférence de théâtres qui ont été le lieu de naissance, d'insurrection, de révolution. On a cité le théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1830, on a cité le théâtre de l'Odéon et les événements de 1968 en France. Donc historiquement, les lieux de culture ont souvent été un terreau d'insurrection. Est-ce qu'on peut encore dire que les lieux de culture en 2019 sont des lieux de militance et d'insurrection ?
Je pense non. Je pense qu'on a beaucoup parlé pendant la conférence d'autocensure, de fait que beaucoup de structures ont peur. Ils ont peur d'ouvrir leurs portes, de faire des trucs où ils vont perdre leurs subventions, ils vont se friter avec la mairie, etc. Et donc non, absolument pas, en fait. Et c'est intéressant, ces deux lieux de culture-là dont tu cites, en fait, c'était pas le lieu elle-même qui a ouvert ses portes, en fait, dans l'histoire de la Monnaie en 1830. C'est en fait les acteurs qui sortent leur rôle et disent aux armes citoyens pendant l'opéra. Et donc, à ce moment-là, l'insurrection commence. Donc, c'est les acteurs qui sortent leur rôle, c'est pas la Monnaie qui a dit ah bon, ben, on va faire l'opéra et puis ça va déclencher une révolution. Et même chose pour l'audience, c'était squatté par le Living Theatre. C'était pas le théâtre qui a accepté ce rôle. Donc, mais je pense que ces lieux ont encore cette potentialité et c'est plutôt une question de peur, en fait, souvent, et d'autocensure.
Oui, moi, je voudrais. Mais j'aime bien ce que vient de dire John, parce que il y a deux choses. S'il répond directement non, les lieux de culture ne sont plus ces endroits-là, mais à la fin, il dit mais ils ont cette potentialité. Donc c'est plutôt ça que je voulais dire, c'est que ce qui s'est passé dans ces lieux de culture était lié au contexte immédiat. C'est pas le lieu de culture qui a soudain développé l'idée de l'indépendance de la Belgique ou mai 68. Ce sont des lieux qui ont été investis, mais parce que le contexte permettait que ces lieux soient investis de cette manière-là et que les idées qui s'y exprimaient, mais j'entends aussi en Italie ou en Allemagne, hein, l'opéra a joué un rôle très très important dans les luttes de libération nationale ou de l'unification allemande ou italienne. Et donc, c'est les circonstances quand même qui font que... Hein, alors, est-ce qu'on est dans des circonstances où les lieux de culture ne peuvent plus jouer ce rôle-là? Ça, c'est la question de savoir, est-ce qu'on est dans un monde totalement dépolitisé? Et donc, les lieux de culture sont à l'unisson. C'est-à-dire, on ne verrait pas pourquoi un lieu de culture serait le lieu d'où viendrait une révolution. Ça, c'est une question. Mais il y a une question sous-jacente et qui est un peu embarrassante, c'est qu'est-ce qu'on entend par lieu de culture? Alors, est-ce que les grands théâtres, les grands opéras, tout ce que John a montré comme figure détestable des gens qui viennent assister à un spectacle et qui ne sont pas participants du spectacle, donc qui sont des consommateurs de spectacle, est-ce que ces lieux-là sont actuellement porteurs de la culture et pourraient produire des révolutions? C'est pas certain. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres formes culturelles qui se développent ailleurs, dans les banlieues, dans les ZAD, dans plein d'autres endroits. Et c'est peut-être là qu'il faudrait aller voir le ferment culturel du changement.
Et je pense que ce qu'on a dans le monde de la culture, c'est ce que j'appellerais la pathologie de la représentation. Cette idée qu'en fait, la culture, l'art et l'art politique, c'est montrer le monde aux gens.
C'est un peu l'histoire du théâtre grec.
C'est de montrer la crise, de faire une pièce de théâtre, une opéra sur le réchauffement climatique, faire un concert sur les migrants, faire une expo sur l'anthropocène, je sais pas quoi, mais toujours de montrer le monde. Et pour nous, au laboratoire de l'imagination insurrectionnelle, où on met ensemble les artistes et les activistes pour créer des nouvelles formes de désobéissance, c'est pas pour créer des pièces ou des œuvres politiques, mais des gestes et des actes de désobéissance directe, d'action directe, pour vraiment changer le monde. Et beaucoup de lieux culturels ont peur de ça. Tout va bien si tu fais une pièce de théâtre sur les émeutes des Gilets jaunes. Mais tu vas absolument pas avoir une assemblée des Gilets jaunes dans ton théâtre du tout. Tout va bien si c'est sur la scène, tout va pas bien si c'est dans la rue, dans la réalité et dans un vrai changement social plutôt que la représentation et de faire semblant de faire la politique dans le monde artistique.
On va maintenant parler justement de la question des artistes, puisque ça a été abordé dans cette conférence, sur le rôle justement de l'artiste militant. Il y a plusieurs exemples dans le passé d'artistes qui ont pris des positions politiques très très fermes. On a l'impression qu'en 2019, maintenant, déborder du cadre et avoir une vision politique quand on est artiste, ou en tout cas quand on est artiste médiatisé, ça semble plus tellement à l'ordre du jour.
Mais avant de passer la parole à John qui répondra mieux, moi, ce que je veux dire, c'est un élément de cadrage. Là aussi, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un moment de reconfiguration, pour pas dire de confusion, sur les idéologies. Donc quand on dit qu'il y a des gens qui prennent des positions politiques, ça serait assez compliqué aujourd'hui. La référence, elle est très simple. C'était, on va prendre les années 50-60. Les gens étaient plutôt du côté parti communiste. Voilà, on savait à peu près où on était. On était contre la guerre au Vietnam. Enfin, il y avait des grandes causes qu'on connaissait assez bien et qui faisaient une division entre les uns et les autres. Et disons, s'engager pour un artiste semblait être assez simple. On est probablement dans un moment où il n'y a plus de cause aussi claire que celle-là. Il y a encore les migrants, par exemple, qui ont un peu cet aspect-là. Mais sur beaucoup de causes qui ont été d'ailleurs gagnées, hein, je pense l'avortement, l'homosexualité, la liberté, enfin, l'extension des droits individuels, tout ça, il y a beaucoup de combats qui ont été déjà gagnés. Il y a un effondrement d'un modèle communiste alternatif au capitalisme. Et donc, globalement, aujourd'hui, prendre position, ça pose un problème au-delà du monde artistique. C'est-à-dire à quoi faut-il s'opposer? Et là, je pense, il ne faut pas être désespéré. Hein. Je pense qu'on est en train de réfléchir à comment, en gros, il y a deux grandes orientations. C'est l'environnement, donc l'écologie, la question de la planète, et puis le rapport que la dégradation de l'environnement et de la planète a à voir avec le capitalisme. Et donc je pense que c'est sur ça que les gens travaillent aujourd'hui, mais c'est pas très clair. Et donc on peut s'engager sur le climat, par exemple, comme John a pu le faire. Est-ce que c'est considéré comme non politique? C'est ça, là il y a aussi cette question-là, c'est qu'on... Souvent, on pense que s'engager pour le climat n'est pas une question politique. Et il y a tout un travail à faire pour rendre politique la question du climat. Donc voilà, juste je voulais dire ça, c'est que c'est compliqué. Et on n'aurait pas une ligne très claire pour dire qu'est-ce que les uns et les autres doivent faire. Mais comme je disais dans la conférence, dès lors que des acteurs culturels, des artistes, pensent que l'action qu'ils mènent vise à promouvoir l'égalité entre les personnes, la dignité des personnes et la justice, eh ben, c'est déjà un bon début.
Et c'est la question de l'art. C'est intéressant, l'année dernière, le GIEC sur le climat, les scientifiques qui écrivent le rapport scientifique sur la question du climat, on dit qu'on a 12 ans pour gérer ce problème et en fait on doit changer radicalement nos modes de vie et nos concepts et il faut tout changer en fait. Et c'est, les scientifiques disent ça, hein, c'est des gens qui normalement sont très... sont plutôt qui font gaffe à des grands discours comme ça. Et donc, pour nous, une des choses qu'il faut changer, c'est l'art, en fait. Qu'est-ce qui est l'art ? D'abord, moi, j'ai un problème que cette idée de l'artiste veut dire qu'il y a une forme de monopole de créativité sur des gens, des experts, et que les autres gens ne sont pas créatifs. J'ai aussi un problème avec le terme activiste. Parce que activiste ou militant, ça veut dire aussi qu'il y a des experts qui changent la société. En fait, ce qui est vrai, c'est que tout le monde est créatif et tout le monde peut changer la société. Et donc, et je pense qu'il faut vraiment changer l'idée de l'art, que, en fait, l'idée de l'art, c'est très récent. 500 ans de l'idée de l'artiste, l'art comme séparé de la vie quotidienne. En fait, ce que nous, au labo, on prône, c'est l'idée que l'art, c'est donner l'attention à quelque chose. Et en fait, si on commence à donner l'attention à quelque chose dans notre vie quotidienne, l'attention, ça peut être l'attention à comment on organise un programme de radio, ça peut être comment on fait un repas, ça peut être comment on organise une émeute, ça peut être comment on organise des formes de vie communes, ça peut être n'importe quoi, mais c'est donner l'attention à quelque chose. Et de sortir de cette idée que l'art et la vie et la politique sont séparés.
C'est ce qu'on a abordé notamment dans cette conférence et une question qu'on voulait vous amener dessus, c'était la légitimité de la créativité où effectivement on a l'impression que maintenant la créativité est restreinte à une caste de personnes qui ont suivi des cursus, qui ont suivi des formations, qui ont le droit d'être sur scène et de s'exprimer et que de l'autre côté il y a le public qui lui a juste le droit d'être consommateur et n'est pas dans une créativité. On va probablement poser notre dernière question de ce débat.
Et oui, justement, je voulais vous demander, voilà, on a compris que l'art et de la même façon le militantisme, c'est pas des ensembles circonscrits à un ensemble de personnes précises et qu'il y a un continuum en fait entre peut-être des formes très explicites d'insurrection, des formes très explicites de création et le fait d'accepter le système dans lequel on est et qui produit pourtant des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. On en a l'exemple en ce moment. Donc qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existerait entre ces deux extrêmes opposés ?
À savoir, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on fuit finalement le système dans lequel on est ? Est-ce qu'il y a un espace entre les deux dans lequel on peut s'inscrire et aussi militer à son niveau ? Voilà, enfin, je ne commence pas la réponse.
Non, moi je vais commencer par dire une chose qui est plutôt synthétique, on va dire, et John sera plus précis. Donc synthétiquement, effectivement, on vit dans une société qui est organisée d'une certaine manière. Dans cette société, il y a des institutions. Ces institutions subventionnent des acteurs culturels. Donc, la question, est-ce que si je suis subventionné pour produire une activité culturelle, je vais être récupéré ou est-ce que je peux changer un système qui m'impose des normes, ne serait-ce que des normes comptables ou des normes de programmation ou, comme John le disait, d'avoir une autocensure quand quelque chose vient attaquer une institution, vous n'avez pas le droit de le faire, donc votre créativité, elle est limitée. Alors, soit on peut avoir une position qui est extrêmement dure, radicale, je pense que c'est un peu celle que John propose, qui consiste à dire bon ben les institutions de toute façon c'est pourri, il faut en sortir, et parce que le risque de bon, d'abord parce qu'on est contrôlé trop sévèrement, parce que on nous interdit de faire des choses qu'on voudrait faire, parce qu'il faut être attentif et parce qu'il faut s'auto-censurer et parce qu'il y a cet élément qui a été rappelé souvent de la peur, c'est-à-dire la peur de perdre son emploi, la peur de disqualifier une équipe, de mettre un groupe de théâtre au banc, tout ça. Bon, et donc il y a des enjeux qui sont existentiels pour les personnes. Alors, soit on est radical et on dit, ben, tout ça, je veux être libre et il n'y a pas de frein à ma créativité, donc je ne veux pas du tout avoir affaire avec les institutions. C'est une position. L'autre position, elle consiste à dire, bon, est-ce que ce monde va changer ? Est-ce que la position que j'occupe au sein de ces institutions, elle est défendable ou pas défendable ? Je pense que c'est pas aussi, le contrôle des institutions sur nos activités individuelles n'est pas aussi totalitaire qu'on se le représente quand on a une idée extrêmement violente des institutions. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des marges de manœuvre, qu'il y a des manières de détourner la commande, qu'il y a des manières de désobéir sans le dire, de mentir gentiment aux institutions. Donc il y a une capacité encore à mener une action dans le cadre des institutions, à mon avis. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la position de John, mais je pense que si on n'est pas radical en pensant « bon, j'ai pas la liberté absolue, il faut que je m'arrête », néanmoins, je pense qu'une position réaliste, un peu pragmatique, consiste à dire « il y a un monde qui est organisé avec des institutions où nous sommes les vecteurs de la culture, essayons de mettre ce vecteur au service des populations. Faisons-les agir avec nous, augmentons la créativité globale. » On n'est pas contraint vraiment, je crois. J'espère qu'on n'est pas encore totalement contraint dans les projets de création qu'on a. Et donc moi, je serais plutôt pour être assez attentif à ce que les institutions nous demandent, essayer de détourner, de contourner ce qu'elles nous demandent quand ça ne nous plaît pas, et continuer néanmoins à activer ce levier qui est faire la créativité, enfin diffuser la créativité dans la population, au contact et avec elle. Je pense qu'on peut le faire, et voilà. Donc j'aurais pas cette position ultra radicale de dire bazardons tout.
John, intégrer ou fuir, ou entre les deux?
Il faut déserter et danser, il faut faire les deux. Il faut déserter toute forme de domination, de violence, il faut se rendre ingouvernable. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ces institutions sont des lieux, comme tu dis, des lieux publics, c'est notre argent. Et on peut les transformer, les détourner. Mais la clé, c'est de ne pas être dépendant. Donc nous, au labo, on essaye de vivre avec très peu de moyens. Et donc, on essaye de ne pas avoir un capital culturel. La plupart des artistes, ils se construisent à travers leur travail dans les institutions un capital culturel.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le capital culturel, en l'occurrence?
Donc l'idée que, en fait, j'ai raconté une histoire basée sur une expérience de censure au Tate Modern, où nous, on faisait un atelier d'art et d'activisme, c'était invité par le Tate Modern, et le Tate Modern nous a dit « vous ne pouvez pas faire une action contre nous ou nos sponsors, mais on est ouvert à une réflexion et un débat sur la relation entre l'art et l'activisme. » Donc l'histoire finie, j'ai pas le temps de dire toute l'histoire, mais en fait on a désobéi parce que l'atelier s'appelait « La désobéissance construit l'histoire », donc les participants et nous, on a désobéi cette injonction du Tate et on a fait une action contre les sponsors. Et 7 ans après, le collectif qui était fondé par cet atelier a fait fuir le sponsor qui était British Petroleum du Tate, avec des actions très très belles, des interventions illégales dans le musée très très belles. Donc nous, on va jamais être invité à la Tate, c'est clair. C'était clair le moment où on a dit bah en fait vous nous avez envoyé ce mail en disant vous pouvez faire ça, et nous on a dit bah on va le faire. On a perdu notre capital culturel. Normalement tu montes ton capital culturel parce que là t'as un atelier au Tate, et puis 2 années plus tard ils t'invitent pour une expo, et puis 10 ans, 15 ans plus tard t'as ta rétrospective. Donc t'as monté ton capital culturel, et pour nous ce qui est important, c'est de transformer la société. C'est pas de monter notre capital culturel et c'est pas d'être dépendant économiquement de notre travail là aussi. Et ça, c'est très important aussi. En fait, la liberté vient aussi de ça, de ne pas être dépendant. En fait, tout le système capitaliste et le système colonial, c'est basé sur construire une dépendance, en fait. Donc, pour moi, il y a une super histoire qui illustre ce truc. Il y a Raffles au 18e siècle, il y a un colon anglais qui va en Indonésie pour coloniser l'Indonésie. Il est en bateau. Il passe à travers l'archipel, il dit c'est quoi cette île-là, et les gens dans son bateau disent cette île, ça s'appelle blablabla. Cette culture est basée entièrement sur les palmes. Donc leur danse, leur cuisine, leur architecture, leur rite, leurs habits, tout est basé sur les palmes. Et Raffles dit ok, c'est clair, on doit couper toutes les palmes parce que s'ils n'ont pas besoin de nous, ils ne sont pas gouvernables. Et donc ils nous gouvernent parce qu'on est dépendant d'eux. Et donc, comment est-ce qu'on construit notre autonomie pour, à la fin, n'être pas dépendant de ces institutions? Ça, c'est, pour moi, c'est aussi une grande question, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ce sera notre mot de conclusion. Albert Augien, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. John Jordan, merci beaucoup. On aurait pu parler encore pendant des heures. La conférence a duré à peu près 2h30. C'était très, très intéressant. Léna, merci beaucoup.
Merci à toi, Mathieu.
C'était Mathieu et Léna pour Westrack Radio.
PopMind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Bonjour, alors nous sommes avec Marie Bongard, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok, je prononce pas mal ton prénom
non,
et
c'est
ton
bien
nom.
Ça.
Alors, on va faire une petite interview, un petit retour sur cette conférence qui vient de se terminer sur égalité femmes-hommes, espace public et pratique collective. Et je crois que c'est une des rares fois que je vois égalité femmes-hommes et non hommes-femmes. Ça prouve déjà, on va dire, on se met déjà dans le sujet.
Oui, c'est clair, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça très important de remettre la femme un peu avant femme-homme. C'est bien, on a trop entendu homme-femme.
Oui, c'est vrai. Déjà, moi, ça m'a marqué. Je pense que ça nous a toutes marqué. Ce qui m'a marqué également, pour mettre un petit peu un décor, c'est qu'il y avait grand maximum une dizaine d'hommes dans la salle. Est-ce que toi, ça t'a marqué?
Ouais, c'est la première réflexion qu'on s'est faite malheureusement avec les autres intervenantes et intervenants, mais il y avait des hommes déjà. Donc ce qu'il faut se dire, voyons le verre à moitié plein, il y avait des hommes dans la salle, donc un quart d'homme à peu près, un cinquième d'homme. On va réussir à avoir des salles égalitaires aussi bientôt, j'espère.
Eh ben, on l'espère. Et bon, pour cette conférence, peux-tu nous faire, alors c'est une lourde responsabilité que tu as, c'est de faire un mini compte-rendu en quelque sorte de cette conférence qui a duré 2 heures et qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce sujet, c'est vrai que c'était compliqué d'être succinct. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé?
Oui, alors l'objectif c'était de voir ce qui était mis en place à l'heure actuelle pour que les femmes soient l'égale des hommes dans l'espace public. Donc l'espace public, c'est l'espace dans lequel on déambule, c'est l'espace aussi maintenant internet, l'espace virtuel. Donc il y a eu plusieurs thèmes abordés comme les cours de récréation non genrés ou en tout cas égalitaires, mais également les parcours de découverte des lieux publics. Alors là en l'occurrence on a parlé des lieux de musique actuels, mais l'objectif c'est de, a priori, en tout cas ce que disait l'intervenante, c'était de le répandre à différents lieux, et puis également dans le milieu culturel, une journée du matrimoine. J'ai adoré le terme matrimoine, on entend trop patrimoine tout le temps, alors qu'effectivement matrimoine c'est très important aussi. Voilà.
Eh bien, super. En effet, une conférence où on a abordé plein de sujets. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais on parlait de villes faites pour les hommes. On parlait donc de la femme qui n'est pas finalement prioritaire en fait dans la politique d'une ville, il le disait. La femme... Pour lui rendre service, en quelque sorte, on a créé le 8 mars la journée des droits internationaux de la femme. Alors, c'est son nom en France, mais dans le monde, pour la plupart des pays, c'est la journée de la femme tout court. À ton avis, pourquoi cette différence de titre, en quelque sorte, et ton avis là-dessus?
Ouais. Alors, je vais refaire un tout petit historique exact, parce que j'ai enregistré un podcast sur ce sujet-là il y a 2 semaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ONU a décidé de mettre en place la Women's International Day, et le traducteur qui était feignant ou mal intentionné, en fait, l'a traduit initialement sur le journée de la femme. Donc en fait, au tout début, ça s'appelait journée de la femme. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même eu une coquille dans cette traduction. Donc ils ont repassé sur la journée internationale des femmes. Et nous, des droits des femmes... C'est parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien faire la petite vanne. Ah, c'est votre journée, on va vous offrir des fleurs. Tous les magasins de beauté et tout ça offrent 30% de réduction. Non, mais en fait, le message, il est complètement erroné, quoi. L'objectif, c'est qu'on remette un jour en plus vraiment les femmes sur le devant de la scène. Moi, j'aime bien l'appeler la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes, parce qu'en fait, il y a tellement de choses encore à acquérir. Et à se battre quotidiennement pour que ça avance. Pendant la conférence, on parlait du droit à l'IVG, par exemple. On a entendu des actualités qui étaient un petit peu funestes il n'y a pas longtemps à cause d'un syndicat là, qui voulait faire grève par rapport à ça pour une histoire d'argent en plus. Il faut se rendre compte qu'il faut se battre tous les jours pour ça et que cette journée permet une mise en avant. Voilà.
Et ben justement, se battre, maintenant, ça a une sorte de nom. Donc, on appelle ça être féministe quand on se bat pour les droits des femmes. Ça y est, dès qu'on est une femme qui défend, et ben quand on défend ses droits, on a l'étiquette de féministe. Et est-ce que pour toi, il y a une différence entre une femme qui défend ses droits et une féministe ?
Non, pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, il y a un gros problème féministe. Je pense que ça a été tellement détourné de façon mal intentionnée, ce terme, que il y a des gens féministes, ils pensent que c'est une femme qui veut éradiquer le droit des hommes, que c'est une femme qui est masculine, qui est une femme qui a des poils sous les bras et qui est habillée en jogging, quoi. Tout le monde peut être féministe, tout le monde, les hommes peuvent être féministes. Juste, le féminisme, c'est vouloir désirer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, en fait, c'est un truc qui a été tellement oublié depuis la création, en fait, du monde, que t'es obligé de te battre. Mais féministe, c'est pas du tout un gros mot, c'est juste souhaiter l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà.
Bah, merci pour cette mise au clair, en quelque sorte, qui est assez importante, hein, tout de même, parce que c'est vrai que la féministe, si on veut faire un portrait, elle a les cheveux courts, elle a des poils, et puis elle est masculine.
Ouais, c'est souvent, c'est galvaudé comme ça, alors qu'en fait, tout le monde peut être féministe. Il y a des rappeuses qui font des clips qui semblent hyper sexualisées et tout ça, mais qui se revendiquent féministes, et pourquoi pas ? Je veux dire, à partir du moment où on a un message et qu'on souhaite le faire passer, tout le monde peut être féministe, tout le monde peut être féministe, c'est super important.
Tu viens de dire quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire des chanteuses qui peuvent mettre leur corps en valeur, donc c'est-à-dire, oui, accepter une image d'elle sexuelle, et après tout, c'est vrai, on peut faire passer une image, la femme peut-être peut-être sexuelle, mais ce qui est important, c'est de souligner qu'on n'est pas que ça. Et donc, on peut être féministe, mais être aussi une chanteuse avec des formes et qui aime souligner ses formes.
Ouais, ça me fait penser à un super compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Clito, qui est tenu par une fille qui s'appelle Camille. Et un de ses posts, c'est dire exactement, c'est pas exactement les termes qu'elle utilise, mais elle dit voilà, moi je suis une féministe, je me bats tous les jours pour le droit des femmes. Par contre, faut que j'avoue, au lit, j'aime trop être soumise, quoi. Et en fait, je trouve que c'est un super bon exemple, quoi. C'est-à-dire que c'est chacun vit son féminisme de sa façon. Et féministe, ça veut pas dire vouloir l'éradication des hommes. C'est on peut vivre en super bonne entente et surtout se battre ensemble, quoi. Donc même si on est hyper sexualisé, à partir du moment où on décide de l'image qu'on veut renvoyer et qu'on sait le message qu'on veut véhiculer grâce à ça, ou pas, si qu'on veut juste être comme ça, on peut être féministe et voilà.
Wonder Woman, peut-être un peu l'image de ce qu'on est en train de décrire, je pense. Pour finir, ma dernière question. Alors, c'est Alicia de Radio Campus Rouen. Donc, Radio Campus Rouen, ça s'adresse surtout aux étudiants. Et est-ce que tu aurais un conseil ? Parce qu'en tant qu'étudiante, on adore faire la fête, on adore sortir. Sortir, c'est rentrer tard. Et rentrer tard, c'est aussi prendre le risque d'être un petit peu en état d'insécurité. Quand on rentre le soir en ville, on peut être suivi. Est-ce que tu as des conseils pour éviter justement de se retrouver dans des mauvaises situations, ou est-ce que tu as un truc ou quelques trucs à dire à toutes ces étudiantes qui parfois ont peur d'être dans un mauvais pas en quelque sorte et qui justement s'interdisent de sortir, et sortir c'est aussi aimer être jolie, et du coup est-ce qu'on est obligé de sortir en jean pull pour faire la fête?
Ouais, alors malheureusement, je pense que toutes les femmes ont déjà été confrontées à ça, au harcèlement de rue, au harcèlement en rentrant de soirée, aux remarques sur la façon dont t'es habillée et tout ça. Mais plutôt que dire quelque chose aux femmes, parce qu'on les culpabilise beaucoup, elles sont souvent malheureusement victimes d'agressions et elles sont encore victimisées quand on traite l'actu en elle-même. En fait, moi, c'est surtout aux hommes que j'ai envie d'adresser un message, c'est que déjà, le consentement, une femme, elle vous dit non, c'est pas une tentative de repousse-moi, je reviens et tout ça. Si elle a dit non, c'est qu'elle a pas envie, donc voilà. Faut savoir qu'une femme, quand elle rentre chez elle, souvent, elle a peur, donc c'est pas drôle de suivre une femme. Si elle a envie d'être avec vous, si elle a envie qu'il se passe quelque chose, elle vous le fera comprendre. Il n'y a pas de jeu et tout ça, donc c'est vraiment, faut penser, les hommes, une femme qui s'habille de façon sexy, c'est qu'elle l'a décidé, arrêtez de la juger. Et quand elle rentre chez elle toute seule, laissez-la tranquille. Hein.
On peut être jolie pour soi-même, en fait.
Ah, mais je pense que c'est le principal truc, quoi. C'est-à-dire que quand on part de chez soi, il faut se dire « Ah, je suis en bombe quoi aujourd'hui, et je le fais pour moi, et je suis contente de le faire pour moi ». Après, qu'on le fasse pour plaire à quelqu'un, c'est d'autant mieux. Mais la première étape, c'est déjà le faire pour soi et de la faire de la façon dont on veut, quoi, sans être jugé.
Eh ben merci Marie. Est-ce que tu peux rappeler, parce que tu es Instagrammeuse bénévole, comme tu l'as dit, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton compte pour les gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur ce que tu dis sur les réseaux sociaux?
Ouais, donc mon compte, c'est mon prénom et mon nom, donc Marie Bongard. Tous les jours, je partage des actualités sur les femmes. En fait, ma journée un peu type d'Instagrammeuse bénévole, elle commence avec des informations le matin où je partage plusieurs comptes qui sont tenus par des femmes. Pour la plupart du temps, c'est pour promouvoir leur art. Donc je partage ces comptes-là pour qu'elles soient mises un petit peu sur le devant de la scène. Et dans la journée, je partage des actualités. Je fais une petite revue de presse, en fait, de 5 actualités qui m'ont marquée. J'aimerais bien le faire plus, mais à ce moment-là, il faudrait que je passe de bénévole à rémunéré. En gros, j'essaie de partager 5 actualités de femmes, sur des femmes, par des femmes, concernant des femmes qui se sont passées dans la journée. Voilà.
Eh ben merci beaucoup. C'était sur la conférence. C'était un petit retour sur l'égalité femmes-hommes, espace public et pratique collective. Alors oui, c'était important de se restreindre à espace public et pratique collective, parce que sinon, comme on l'a dit, égalité hommes-femmes, ça peut aller très très loin sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup. Avec et puis plaisir. Bonne continuation et à très bientôt sur Instagram.
Merci beaucoup.
PopMind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.